Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Théâtre de l'Alliance Française pour Un masque et la plume consacré ce soir à la littérature avec Patricia Martin des Petits Matins du Week-end de France Inter, Jean-Claude Raspien-Jas, Delacroix, Frédéric Becbédé de la Côte Basque et du Figaro Magazine et Arnaud Vivian de Transfuge et de Regard. On parle ce soir des nouveaux romans d'Aurélien Bélanger, Olivier Bourdeau et Milena Agus, d'un récit stupéfiant de Will Self et des mémoires floues de l'acteur Jim Carrey. Dans le courrier de la semaine, Aurélien Lorléac de Lorient nous écrit pour De sable et de neige de Chantal Thomas. Vos critiques lui ont simplement dit merci quand la littérature et sa critique atteignent ce degré de délicatesse, de finesse, d'incandescence et de simplicité. Moi, lecteur et auditeur de France Inter, je me borne à dire merci au Carré, merci à Chantal Thomas et merci aux critiques du Masque. Autre merci.
Et on le remercie.
Ce... qui nous vient de Londres et de François Ménian. Cette semaine, je suis allé au Masque Donald pour m'offrir un Big Masque. En effet, j'ai lu les derniers livres de Chantal Thomas et de Florence Aubenas. Merci à tous car je me suis régalé. À propos de Florence Aubenas, Arnaud Sanquer loue son humanité, sa façon de préférer les fêlures à ceux qui brillent, les oublier aux puissants, bref, son style. Camille, en revanche, a été consternée par le peu d'enthousiasme de trois critiques du Masque, sauf Patricia, pour L'art de la joie de Goliarda Sapienza, livre d'une force rare, riche, envoûtant, écrit par une femme d'une très grande liberté pour son époque. Public du Masque, ne te laisse pas impressionner. Si tu n'as pas encore ouvert ce livre incontournable, précipite-toi pour l'acquérir.
Elle a bien raison.
Sinon, dans la série, le Masque est un site de rencontre. Voici ce que je reçois au dernier Masque et la plume livre. Jérôme Garcin, vous avez lu le message de Marie-Josée Séry-Mercier, c'est moi, sur les Quality Street, mais aussi celui de Véronique de La Roche-sur-Yon, sur le même sujet, c'est-à-dire ces bonbons dont, je vous rappelle, Olivia regrettait la disparition alors qu'ils existent bel et bien. Fait incroyable, nous dit donc Marie-Josée Séry-Mercier. Véronique et moi, nous travaillons dans le même établissement public administratif et pendant les manifs, nous défilons sous le même badge. Bref, nous nous connaissons, je te jure, mon Masque, que c'est le hasard. Nous découvrons aussi que nous aimons tous les deux les Quality Street. C'est quand même complètement dingue. À bientôt, mon Masque. Eh bien, à bientôt, Marie-Josée Séry-Mercier. Enfin, René E. Zaccariou, qui se régale des piques d'Arnaud Vivian sur l'usage du C en littérature, s'inquiète car elle travaille sur un manuscrit qui s'ouvre par « Ce n'est pas facile d'être médium quand on n'a pas de talent ». D'où ma question, la forme négative de l'allocution est-elle acceptable ou dois-je mettre fin à mes tentatives d'écriture ?
Ça commence mal hein, quand même, hein. Alors, je pense. Alors, c'est mon combat là pour la France,
c'est d'en finir avec le C. On ne va pas trop loin parce qu'il y a Pascal, un auditeur fidèle qui s'adresse aussi à Arnaud. Arnaud, vous abhorrez les phrases qui commencent par « c'est » ou « c'était ». Et vous placez très haut, vous l'avez dit au Masque, le style de Flaubert. Voici donc l'objet de ma taquinerie. Pourriez-vous nous citer l'incipit de Salambo ?
Et oui.
Je vous le rappelle, hein ?
Et oui.
C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar.
Et oui, bien sûr. Et oui, c'était le risque. C'était le risque.
Bien sûr.
Ah, c'est au passé. À l'imparfait, on a le droit.
Oui, mais aussi, il attaque aussi.
Non, aussi au passé. Et oui, c'était le risque.
Voilà, eh ben, c'était le courrier de la semaine. Et on commence avec Télé-réalité, le nouveau roman d'Aurélien Bélanger. Chez Gallimard, le sujet rejoint vraiment directement celui de Delphine de Vigan, dont on parlait il y a 15 jours au Masque, puisque l'héroïne des enfants rois, je vous le rappelle, s'était rêvée Loana et avait fini par transformer ses enfants en petits influenceurs. On retrouve donc Loana dans le roman de Bélanger. lequel dresse, je vais aller un peu vite, hein, ici, c'est un gros roman, le portrait d'un certain Sébastien Bitterot, un jeune Rastignac qui ressemble furieusement à Stéphane Courbit, l'ancien patron d'Endemol, les créateurs il y a 20 ans sur M6 de Loft Story avec la télé-réalité, dit Aurélien Bélanger. La télévision invente ses propres jeux du cirque, le spectacle total. Et c'est, ajoute Charles Trenet, qu'on croise ici dans ce même livre en compagnie de Pascal Sevran, de feu Pascal Sevran, c'est le seul équivalent contemporain de l'opéra. Après donc la théorie de l'information et son portrait, vous vous rappelez, en creux de Xavier Niel, l'aménagement du territoire, le Grand Paris, voici donc un nouveau chapitre de la comédie humaine, très réaliste, d'Aurélien Bélanger-Arnaud.
Alors, contrairement à ce que tu as dit, c'est pas du tout un gros roman par rapport à...
Par rapport à la théorie de l'information.
Par rapport à la théorie de l'information et les quatre autres romans que Bélanger a produits jusqu'à présent, il est même deux fois plus court et d'une certaine manière, pour moi qui suis un fidèle lecteur de Bélanger, c'est un petit Bélanger.
Il est court à 350 pas.
Oui. Mais non, mais c'est vraiment un petit Bélanger dans tous les sens du terme, c'est qu'il est beaucoup moins fou, furieux, puissant que les autres livres qu'il a pu produire précédemment, notamment le dernier, Le continent de la douceur, qui vient de ressortir en folio, qui était quand même une théorie géniale sur l'Europe fondée sur les mathématiques, complètement folle, où on croisait beaucoup de personnages vivants, comme il le fait toujours, hein, Bernard-Henri Lévy notamment, qui avait un rôle extraordinaire dans ce livre. Donc, si vous voulez, en tant que fidèle lecteur de Bélanger, je suis un peu déçu, c'est vraiment du Bélanger pour les nuls, ça lui permettra sans doute de trouver un nouveau lectorat qu'il n'avait pas encore, parce que ses romans sont...
Enfin, je suis pas sûr que le lectorat, les téléspectateurs de Love Story soient des grands lecteurs de la collection Blanche. Hein.
C'est possible. Mais là, en fait, on voit bien que ce qui s'adresse, c'est pas tellement aux spectateurs de Love Story, mais plutôt aux enfants de la télé. Et là, ça fait un lectorat quand même assez monstrueux. On est tous des enfants de la télé. Et c'est à eux qu'il s'adresse avec une théorie comme quoi la télé est le dernier art qui soit arrivé, peut-être puisqu'on dit que la BD est le 9e, ça serait le 10e art, en l'occurrence, que la télévision. Alors, à chaque fois, c'est très documenté. Tu parlais de Stéphane Courbit, qui est vraiment le... Oui, effectivement, c'est une biographie en creux, comme il l'avait fait avec Xavier Niel. C'est très documenté, parfois touchant. Moi, quand j'ai croisé, par exemple, le nom de Philippe Vecchi, malheureusement trop tôt disparu, et qui était un ami, ça m'a touché qu'il le ressuscite là, comme quand il parle de Léo Cher, qui est non seulement a été son premier éditeur, parce que Bélanger a écrit son premier livre, qui est un essai sur Houellebecq absolument magnifique, chez Léo Cher, mais Léo Cher a été aussi l'inventeur de Canal+. Donc c'est vraiment intelligent, comme toujours, hein, mais moins fou que ce qu'il produit d'habitude, et donc de mon point de vue de fan, hein, je suis un petit peu déçu.
Frédéric ?
Alors c'est précisément la raison pour laquelle je pense que c'est son meilleur livre. C'est pas seulement parce que tu es déçu, mais aussi parce que, pour une fois, ça n'est pas long, empoulé et incompréhensible.
Oh, le Grand Paris, c'était pas long, ni empoulé, ni incompréhensible.
Non, mais je trouve que là, vraiment, c'est ce qu'il a fait de mieux. Je trouve que c'est extrêmement bien observé, c'est très rapide. On le lit comme on regardait les premières téléréalités, c'est-à-dire d'une manière addictive. C'est un livre vraiment addictif, très marrant. Je cite des extraits, par exemple, sur La Chance aux Chansons, il dit on aurait dit une machine à barbe à papa filmée au ralenti. Il y a plein de petites observations géniales. Je ne sais pas comment il a fait pour se documenter aussi bien. On est plusieurs à avoir essayé de s'attaquer au sujet de la télé. Moi, j'ai essayé aussi. C'est très, très compliqué.
Non, toi, tu t'es attaqué plutôt à la radio.
Récemment.
Mais, avec beaucoup de réussite.
Récemment. Mais bon, c'est vrai que c'est un très, très bon livre. C'est un livre vraiment agréable. Dans son avant-propos, il a une définition du roman qui est très belle. Comme dans le rêve, l'auteur est parti de quelques faits publics pour dériver vers des territoires inconnus. Bon, je trouve que voilà, Bélanger est extrêmement éblouissant dans ce livre, et je préfère justement quand il coupe tout ce qui est ennuyeux et qu'il garde que le spectaculaire. Et alors la scène d'anthologie vers la fin, où on est chez Jean-Luc Delarue dans son appart, ouais, et que François Veillargan arrive.
François Veillargan, c'est son entrée à l'Académie.
Veillargan arrive.
Tout ça est en vrai.
Et c'est exceptionnel, mais vraiment, c'est morceau
de bravoure.
Mots
parce que.
Et ben, on est rue Bonaparte dans l'appartement de Jean-Luc Delarue, où j'ai eu une fois la chance d'être invité. Et c'est vrai que je crois qu'il est genre 18h et tout le monde se réveille. Il y a des restes d'une fiesta apparemment qui a duré très tard. Et François Veillargance est là, il est en slip.
Il avait beaucoup travaillé au succès et à l'entrée de François Veillargance à l'Académie.
Veillargance écrivait ses lettres qu'il a écrites à la main à chaque académicien. Et il a fait ça chez Jean-Luc Delarue.
Mais Veillargance qui est arrivé en retard le jour où il a été intronisé à l'Académie et qui a dit qu'en plus il avait oublié la moitié de ses feuilles dans le taxi.
Et le plus marrant, c'est que Jean-Luc Delarue, à ce moment-là, est caché dans le frigo. Parce qu'il, en fait, en gros, le narrateur, le héros du livre, voudrait vendre sa société à Delarue ou acheter la société de Delarue.
Enfin, oui, bref, il faut dire que le rendez-vous de business ne se fait pas. La télé de l'époque y est, de Dorothée, jusqu'à Pascal Sevran, en passant effectivement par Delarue. Patricia.
Là, moi, je suis assez d'accord avec Arnaud. Je trouve que c'est pas mal, c'est bien, mais en moins. Enfin,
beaucoup moins bien.
Même dans l'analyse, enfin, je trouve. On voit bien d'où il part. C'est-à-dire que finalement, c'est la nostalgie d'une télévision qui n'existe plus, qui aurait voulu être, comme le disait Jean-Pierre Elkabbach, rousseauiste, une espèce de paradis rousseauiste, où on regardait tous les programmes ensemble. Ça n'existe plus, même si on les regarde de façon mondiale. Mais tout de même, le lendemain, à la machine à café ou même au collège, on parlait du programme qu'on avait vu.
Il y a toujours de la télé-réalité, ça.
Il y a toujours de la télé-réalité, mais enfin, une télé-réalité qui a quand même été largement trafiquée, ça, on l'a dit.
C'est plus la même.
C'est plus la même.
Non, mais il dit que la télé est morte,
mais
surtout.
Mais quand il se demande, d'ailleurs, c'est son voisin de palier qui lui demande mais est-ce que c'est un art, est-ce que c'est quelque chose d'esthétique, etc. Moi, je trouve que c'est une question finalement un peu creuse et que tu comparais tout à l'heure Sébastien Bitreau à Rastignac. Moi, je le trouve bien creux par rapport à Rastignac. Et puis, l'envers du décor.
Je parlais de l'ambition du jeune provincial qui veut.
C'est balsacien. Mais, voilà, un roman balsacien.
C'est balsacien. Enfin, moi, je trouve que vous le placez très haut. Moi, je ne l'ai pas trouvé comme ça. Mais bon, le dîner avec Trenet, mais c'est tragique. Puis, l'envers du décor ne m'intéresse pas. C'est-à-dire les grosses voitures, la prétention d'un petit monde qui vit comme ça sur lui-même.
C'est vrai. C'est un monde qui a existé.
C'est réaliste.
Oui, mais c'est pas un monde dont moi je veux bien qu'on parle de drogue ou de trucs trash, préfère quand c'est Will Self. Non, mais je veux dire, tu vois, quand il y en a.
On n'est pas encore à Will Self.
Franchement, ça m'ennuie un peu, quoi.
Jean-Claude.
Ben moi, à l'inverse, je suis ravi qu'un romancier s'attaque enfin à la télévision au moment où son essence change. C'est-à-dire qu'il y a un changement de civilisation qui s'opère sous nos yeux. Ça se passe à la fin du XXe siècle. Et je suis ravi qu'un romancier s'attaquant à ça arrive à raconter, parce qu'il n'y a pas que l'histoire de Love Story et de la télé-réalité. Ce qu'il explique très très bien, c'est comment lui, romancier, arrive au bon moment, c'est-à-dire celui du grand chambardement, celui de la grande braderie. C'est au moment où la 5 et la 6, on la donne à des amis politiques.
Privatisés.
C'est le moment où on installe le loup Berlusconi dans la bergerie. C'est le moment où TF1 est livré à Bouygues au nom du risible, mieux disant culturel, qui est un hold-up en plein jour. Ce qu'il raconte très très bien, ça. Et ceux qui en bénéficient vont se goinfrer. C'est-à-dire que ce qu'il décrit, c'est vraiment une ruée vers l'or. D'un milieu qui vénère l'argent, qui n'a strictement aucune préoccupation de rien du tout, sauf de se remplir les poches et au maximum.
Il y a pas tant d'or que ça.
Donc ils vont se goinfrer. Et en plus, il y a un truc vachement intéressant dans son livre, c'est que il montre la part de sacrifice humain qu'il y a dans cette aventure. C'est-à-dire que les animateurs sont une sorte de chair à canon cathodique.
Et puis, en même temps, c'est des dieux. Hein,
Il dit très bien que jamais dans l'histoire de l'humanité, on est arrivé à un tel degré de vénération. Et en même temps, de précarité, c'est-à-dire que du jour au lendemain, tout s'arrête, quoi. Et après arrive la réalité, dont il dit que c'est l'invention du siècle, et il a raison. Et ce qu'il appuie, ce sur quoi il insiste, est passionnant, parce que c'est quoi la télé-réalité ? C'est exactement l'application de la théorie de Foucault, c'est-à-dire du surveiller et punir. C'est-à-dire que tu enfermes des rats de laboratoire, tu les filmes jour et nuit, tu pousses leurs pulsions, tu entretiens le voyeurisme général, et tu procèdes sur un moteur à deux temps qui est humiliation, élimination. Les gens vont se vautrer devant ce genre de programme. Or, c'est précisément l'illustration de ce qu'ils vivent tous les jours dans leur entreprise. C'est-à-dire humiliation, élimination. Et en plus, tout ça, c'est dans un truc qui est criard de laideur et qui va rendre le public esclave du spectacle et on va rendre tout ça à la publicité. Et ce qu'il dit très très bien, c'est que le loft cathodique du Love Story, c'est l'appartement témoin du siècle nouveau. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une époque de brutalité et de sentimentalisme un peu poisseux, qui va conduire à Hanouna, et là on va toucher le fond.
Bon. Voilà. Mais Hanouna n'est pas dans le livre.
Non, Hanouna, s'il le cite à un moment. Et moi je suis d'accord avec vous, c'est du Balzac, c'est la comédie humaine d'aujourd'hui, et c'est Rastignac.
Enfin, finalement, ce qui reste vraiment de Love Story, c'est quand même Le Masque et la Plume. Vous êtes là enfermé dans un théâtre.
Surveillé et parfois puni.
Et puis élimination aussi. Hein, et humiliation. Télé-réalité, c'est Aurélien Bélanger, et c'est chez Gallimard, Mémoire floue. je dis bien mémoire floue, co-signée par Jim Carrey, l'acteur du Truman Show et de Man on the Moon, et par le journaliste américain Dana Vachon ou Vachon. Un livre traduit par Sabine Porte et qui paraît au Seuil, première phrase du livre, deux points, ouvrez les guillemets, on le connaissait sous le nom de Jim Carrey. L'acteur est en pleine dépression, il vit reclus dans sa maison hautement surveillé de Los Angeles, avec deux chiens de garde dressés par le Mossad, et comme Frédéric, qui passe ses journées à regarder des documentaires sur Netflix et se masturber devant des pornos. Il pratique la méditation transcendantale, comme Frédéric, avec d'autres stars hollywoodiennes. Il craque pour une jeune actrice de série B. Il se voit proposer, ça j'aime beaucoup, par son ami, le scénariste Charlie Kaufman, d'être Mao dans un biopic où Anthony Hopkins serait Nixon, ça fait quand même rêver. La suite, elle est délirante. On verra notamment John Travolta résister aux aliens coiffé d'une, je cite, choucroute arc-en-ciel à effet stroboscopique en fibre optique surnommée Air Oshima. Bref, un roman qui mélange le vrai et le faux, avec évidemment des bons moments et d'inévitable, si vous permettez mon jugement, d'inévitable longueur. Jean-Claude.
Ah ben c'est du gros délire, bien appuyé, à l'américaine. On n'est pas dans la nuance, on n'est pas dans la subtilité, c'est pas du Chantal Thomas. Moi je trouve que le style de ce livre... c'est drôle, si vous voulez. Je trouve que le style de ce livre ressemble aux mimiques de Jim Carrey. On a envie de dire à chaque fois, comme devant ces films...
Dont le parcours cinématographique est un peu chaotique.
Oui, c'est ça. Et donc on a envie, on a envie de dire, après chaque mimique absolument extraordinaire, mais bon, et après. Moi, je trouve que c'est vieillot. Je trouve que c'est un imaginaire daté qui est très années 70, psychédélisme et science-fiction, sous l'emprise de substances diverses, tout ça. Et à chaque fois, on se dit...
C'est très thérapeutique, surtout pour lui. On sent qu'il met là-dedans
si on veut.
Qu'il n'arrive plus à mettre dans ses villes.
Moi, je veux dire, à chaque délire de chaque page, je me disais, oui, bon, et après, mais encore, quoi. Bon, moi, j'avais très envie de bâiller. Enfin, je me suis beaucoup ennuyé. Je trouvais que c'était sans grâce, ni vraiment jet de génie. C'est lassant, c'est ennuyeux. On est dans l'excès d'excès tout le temps. Alors, le seul intérêt limite que tu as cité, c'est de temps en temps de croiser des vedettes du cinéma.
Il y en a.
On en est là.
On peut lui faire des procès, hein, parce qu'il dit des choses.
Alors, on en est là.
Non, parce qu'il jouera. Il jouera la fiction. Il jouera le.
Bon, en tout cas, on en est là. On en est là à trouver de l'intérêt à un livre parce qu'on y croise quelques vedettes du cinéma. Je trouve que c'est une littérature qui est assez vaine. C'est de la littérature pop-corn et boursouflé.
Non. En fait, il y a une cohérence.
Frédéric, veux te répondre.
Toi, tu es fan d'Aurélien Bélanger. Moi, je suis fan de Jim Carrey. Si on est fan.
Moi aussi, je suis fan de Jim Carrey.
Voilà, si on est fan de lui, il faut savoir donc qu'il a au-dessus de lui deux modèles et deux maîtres qui sont Charlie Kaufman, le scénariste d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind, spécialiste de la mise en abîme, et Andy Kaufman, le personnage d'humoriste qui joue dans Man on the Moon et qui était le spécialiste du canular. Et ce livre, c'est une mise en abîme et un canular. Toutes les stars d'Hollywood, on leur propose d'écrire leur mémoire. Et lui a refusé, il a décidé de faire en fait comme une sorte de blague, une sorte de parodie de mémoire.
Il y a complètement côté Borat surréaliste aussi un peu.
Hein. Oui, et où Lunar Park de Bret Easton Ellis, qui commençait comme une autobiographie et qui basculait dans la folie totale. Et moi, je trouve qu'il y a plein de trouvailles assez marrantes quand il est en train de pleurer dans sa piscine en position fœtale et qui se compare à une orque captive. Il y a des trouvailles, il y a des trucs tout le temps. Il parle avec sa maison, puisque sa maison lui répond. Et elle a la voix d'une héritière singapourienne d'un empire de l'opium en villégiature en Provence. Bon, c'est clairement écrit sous LSD. Soyons francs, on va parler de Will Self après. C'est pas le même produit, ça n'a pas le même effet. C'est un livre, oui, comme il y en a eu, t'as raison, dans les années 70, des livres de Thomas Pynchon, par exemple, où on bascule dans une autre réalité. Mais je trouve que ça fait du bien qu'il ait échappé aux mémoires écrites par un ghostwriter et qu'il ait eu le courage de faire quelque chose d'ovniesque, comme lui.
Patricia.
Moi, j'ai ri pratiquement d'un bout à l'autre, même si de temps en temps, effectivement...
Il y a quand même beaucoup de longueurs.
Il y a quelques longueurs. Mais déjà, rien que le titre, je trouve ça formidable, parce qu'on est à la frontière du roman, dans la mesure où il se donne en spectacle. C'est du grand art de se mettre en scène de cette manière-là, sans posture.
Le titre anglais est encore plus marrant, « Mémoire and Misinformation ».
C'est exactement
c'est plus
ça.
Honnête.
Mais justement, mais à la limite, on s'en fiche qu'il soit sincère ou pas. Probablement, il y a des tas de moments où il ment, mais il est courageux. Parce qu'il y a plein de moments où le roi est nu, où le roi est faible, où le roi, encore une fois, est paranoïaque, très seul.
D'autant que l'acteur est un peu nu, encore une fois, dans son propre métier
dans
pour
son
l'instant.
Dans son propre métier, exactement. Il est crédule, il se montre influençable, infiniment sympathique, je trouve, au milieu d'une jungle de cette société du spectacle et de gens absolument terribles. La façon dont il tombe amoureux, moi, ça m'a fait hurler de rire aussi, parce que c'est comme s'il le décidait tout à coup. Enfin bon, et puis après...
Et c'est vrai, hein.
Oui, c'est vrai.
Mais oui, c'est vrai. La relation qu'il a eue avec
Georgie
dans le livre, elle est vraie. Elle a duré quelques mois.
Mais ils sont prélevés. Ils sont vraiment fait prélever des cellules souches pour que leur amour dure toute la vie. Ça, je sais pas. Tu vois, c'est là où, à mon avis, c'est très drôle. Et quant à la fin, c'est entre une sorte d'apocalypse et un feu d'artifice.
La fin est très belle.
Ah, mais c'est très très beau. Non. Et le biopic sur Mao, mais moi j'étais pliée en deux de rire parce que ouais, Mao est bien sûr bien plus crédible s'il est blanc.
Arnaud.
Non, mais il y a une formidable idée, c'est que c'est une biographie, mais sous l'angle de l'autocritique finalement. Mmh. C'est-à-dire que c'est aussi sa carrière qui est dénigrée d'une certaine manière. Comment il est ramené à un moment avec ce film en 3D avec des rhinocéros, oui, à son rôle de Ace Ventura qui l'a fait connaître au départ, mais dont il a essayé de s'échapper. Toute l'histoire sur le biopic de Mao est à hurler de rire. Oui. Vraiment, quand il regarde des documentaires qui grossissent, etc., et qui donne une fête en se prenant pour Mao, il invite tout le gratin d'Hollywood. Et là, il y a tout le monde. Il y a Tarantino. Mais il y a des phrases quand même qui sont formidables. Celle-là, par exemple. La conversation qu'il avait eue avec Tarantino avait transformé les cogitations de Tarantino en idées. Et ces idées avaient baisé sans capote, donnant naissance à quelque chose de magnifique. Mais rien qu'une phrase comme ça, ça vaut le coup.
C'est
quand même écrit, hein. À un moment, c'est très, très bien écrit. Quoi. À un moment, il est question du rayon de la mort.
Je signale à nos auditeurs le rayon que de Jean-Claude était accablé.
Mais il a le droit, on a le droit de trouver que c'est écœurant, peut-être, c'est vrai, c'est possible, c'est tellement fou qu'à un moment...
Je ne vais pas parler d'écœurant, j'ai dit ennuyeux, lassant, pas drôle du tout.
Oh non, il y a ça, c'est drôle.
Non, mais je serais passé devant chez vous, je vous aurais entendu hurler de rire tous, là, mais non, moi, excusez-moi. Alors,
il faut le poser à ce moment-là.
Le rire silencieux, d'abord.
Jésus est devenu une niche fiscale, quoi. On dirait du bête bédé sous coke, c'est simple.
En fait, c'est moi le vrai...
C'est inimaginable, Arnaud, ça.
Le véritable auteur de ce livre.
Franchement, et tous ces personnages, voir Spielberg, Nicolas Cage, enfin vraiment tout le monde est là dans ce livre. Alors après, je vais vous dire une chose, c'est que j'ai commencé à lire les mémoires de John Waters et c'est franchement aussi, mais il a deux livres là quand même.
C'est mon conseil.
J'ai lu aussi les Waters, c'est complètement délirant. Hein.
Complètement délirant et génial. Aussi, et super drôle quoi.
Tiens, on va le mettre au masque.
Ah oui,
un prochain masque.
Oh non.
mémoire floue de Jim Carrey et d'Anna Vachon ou Vachon, c'est aux éditions du Seuil. Will, c'est à la troisième personne, le récit ouvertement autobiographique et hallucinogène que publie aux éditions de l'Olivier l'écrivain britannique Will Self, traduit par Francis Kerlin. L'auteur des Grands Singes et de la théorie quantitative de la démence raconte ici comment à Londres, dans le quartier d'Hampstead, il est devenu junkie avec des amphétamines, puis accro à l'héroïne et à la culture de la drogue dont le modèle était alors William Burroughs. Le récit en flashback se déroule entre 1979 et 1986, entre les 18 et les 26 ans de Will Self à Londres, mais aussi en Inde et en Australie, même s'il a désormais renoncé à toute drogue. Le livre semble parfois écrit sous emprise, dans une ronde incessante de souvenirs et d'hallucinations. On va demander à la plus sobre d'entre nous, qui est Patricia.
Alors là, pour le coup, ça m'intéresse. Moi, j'adhère. C'est un trip éblouissant sur, je le cite là, la ronde incessante et sisyphéenne qu'est la toxicomanie. Et il se montre... Alors là, je pars sous ton contrôle, Frédéric. Mais c'est un insoumis déjà tout petit. Enfin, à 3 ans, il envoie balader une dame qui, à l'arrêt de l'autobus ou je sais pas quoi, le voit tout seul et lui dit « Mais où vas-tu, mon petit ?» Il est pas content parce qu'on l'a appelé mon petit. Et il lui dit « Je fugue. Je fugue de chez mes parents. » Bon, quand il dit, il parle à un moment donné aussi d'un anniversaire. C'est très joli la façon dont il parle de ses parents, j'ai trouvé. Un anniversaire, par exemple... Parce qu'il appartient, son père était prof, enfin, c'est l'establishment. Hein.
C'est pas la grande bourgeoisie, hein. Attention.
Oui, mais enfin, c'est quand même un milieu intello, quoi, malgré tout. Ouais. Et donc, un anniversaire, il parle du trio qu'il forme, il dit « mon œil, mon cul ». Moi, ça m'a fait beaucoup rire, mais après, il a quand même une sorte de petite un coup de plume de tendresse en disant que les hamburgers et les frites que sa mère avait fait avaient été très appréciés par ses camarades. Et puis j'ai bien aimé aussi ce côté repenti, mais un repenti qui ne regrette en fait rien. Qui est repenti parce que je pense que s'il avait continué...
Ça a quand même duré plus de 20 ans.
Oui, mais il aurait pu en mourir.
Il aurait pu y rester.
C'est vrai qu'il n'est pas repenti, c'est pas ça.
Il est même nostalgique.
Nostalgique clairement. De ça. Ben, comment ne pas être nostalgique de ces sensations fortes-là? Ça doit être assez difficile. Et c'est un expérimentateur, d'une certaine manière. Il a expérimenté la drogue, il expérimente la littérature, et il a un style, d'abord, même physiquement, je trouve qu'il a un style absolument génial. Il a un physique formidable. Et il a un style, une écriture, qui est absolument géniale, avec des uppercuts comme ça que tu vois pas arriver. La façon aussi dont il parle de politique. Bon, alors, il est journaliste aussi, mais bon, tout ce qu'il dit, c'est vraiment une histoire différente. Ce qu'il dit de Thatcher, là aussi, son courage quand il était petit...
C'est beaucoup les années Thatcher. Hein.
Oui, voilà. Ben, oui, mais elle s'en prend pour son grade. Absolument. Et à juste titre, à mon sens.
Alors, on va demander aux professionnels de la profession ce qu'il en pense.
Non, mais c'est quand même insensé. Depuis que je suis revenu au masque, il n'y a que des livres de drogués. Merci beaucoup, Jérôme. Je me sens vraiment bien accueilli. Non, c'est un très, très grand livre. C'est probablement son meilleur livre à lui aussi. Il avait déjà commencé à écrire ses mémoires dans un livre qui s'appelait « Mon idée du plaisir » en 1997. Mais là, c'est nettement supérieur. C'est vraiment un livre très ambitieux. Et ce qui est passionnant, puisqu'on parle de ça, j'ai des amis qui ont pris de la drogue, c'est que tu perds la mémoire. Et écrire les mémoires d'un drogué est une chose impossible. En fait, tu le sens qu'il a tout reconstitué.
Je veux dire qu'il ne peut pas se... Enfin,
je pense pas que
on ne peut pas se souvenir...
C'est difficile.
Même pendant 20 ans de consommation.
Je crois que oui, non. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment il a fait.
Dans la réminiscence. Hein, c'est incroyable.
Mais alors, et donc, c'est un pari qu'il réussit, mais qui n'était pas évident. C'est ça que je veux dire. Et il a probablement beaucoup réinventé des choses. C'est aussi une version anglaise de Jim Carrey. Jim Carrey, il est sous acide, donc c'est très psychédélique. Là, c'est la version plus héroïne, donc
plus speed.
William Burroughs, plutôt, très sombre, très radical, moins glamour, hein, évidemment. On est plus dans les faubourgs et les bas-fonds de Londres. Mais ce que je trouve
avec
intéressant...
Avec une écriture très imagée.
Oui, parce que c'est...
Beaucoup de métaphores.
Et je pense que si jamais il faut se poser la question, pourquoi est-ce que tous les romans des années 90-2000 étaient remplis de drogue? Au fond, c'est parce que les romanciers voulaient échapper au réalisme. Ils voulaient sortir, justement, de Balzac et peut-être trouver une manière de retrouver la fiction. Et je pense exactement pour ça que Will Self est un écrivain très important. Parce qu'il a, grâce ou à cause de son addiction, il a réussi à chambouler la fiction et la langue. Et vraiment, j'admire ce livre.
Et puis, on est à l'ère du digital aussi. Tu peux plus écrire
Jean-Claude.
Enfin, il n'y a pas assez longtemps.
Alors, je dois avouer qu'après Jim Carrey, si vous voulez, c'est clair. Je ne vais pas me cacher que ce n'est pas ma cup of tea. Et que ça avait un côté connaissance du monde pour moi, les projections de connaissance du monde au cinéma pour moi. Je trouve que c'est un peu le VRP de la CAM. Il nous offre un manuel de la défense, certes daté, les années Thatcher et tout ça, un moment de sa vie, c'est la vie du rail. C'est 300 pages qui sont une variation sur un même thème qui est le manque, la dépendance.
C'est tout le problème de la drogue, c'est que la solution est aussi le problème.
Oui, mais c'est ça, exactement. Pour moi, c'est le Vidal décamé. C'est-à-dire que ça t'offre la nomenclature chimique et toxicologique de l'addiction avec les étapes nauséeuses d'une survie aléatoire. Voilà, on est là-dedans. Moi, je trouve les moments les plus intéressants, de mon point de vue, c'est quand il vadrouille en Inde et en Australie, parce que je trouve que là, il a un coup d'œil, il a une observation, où on sent bien le summum de l'écart de classe et de conditions à laquelle il se heurte et l'impasse dans laquelle il est. Et en effet, c'est écrit sous acide, c'est clair. Est-ce que c'est l'effet de ces dérèglements, même s'il dit qu'il est rangé des voitures? Moi, j'ai trouvé ça décousu, j'ai trouvé ça confus, je perdais le fil tout le temps. Il saute du coq à l'âne, et puis il y a des affaîtris, des choses que je n'arrive pas à comprendre, je n'ai pas compris. Pourquoi, dans la plupart des phrases, au milieu des phrases, vers la fin des phrases, on a de l'italique? Et je me disais, mais ça signale toujours quelque chose au lecteur, on change de registre, on insiste sur quelque chose. Toute cette profusion d'italique au milieu des phrases, je n'ai jamais réussi à comprendre pourquoi. Et vous ne pouvez pas dire que c'est là par hasard.
Il manie l'italique comme un peintre de la Renaissance.
Là, je m'incline. Si c'est le Michel-Ange de l'italique, alors là, je m'incline.
Ah non, mais là, oui, c'est le Michel-Ange de l'italique. Absolument. Avec en plus des petits points de suspension qui disséminent quelque part dans la phrase. Et là, il n'y a aucune afféterie. C'est marrant, hein, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas lu de Will Self. Il y a un moment, il se prenait pour Joyce. Alors, on ne sait pas exactement si se prenait pour Joyce parce qu'il s'était beaucoup drogué ou si c'était beaucoup drogué pour se prendre pour Joyce. Donc, il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait résolu.
Est-ce que l'un d'entre vous peut juste m'expliquer, oui, m'éclairer, quoi, sur les raisons de cette profusion d'italique au milieu des phrases? Je ne comprends pas.
Est-ce que son cerveau est en ébullition parce qu'il veut retranscrire quelque chose qui est difficile?
Ouais, ce que je vois pas, c'est en quoi ça te gêne, quoi. C'est un jeu typographique,
mais ce jeu typographique, il renvoie
encore
à quoi?
Tu as la même chose.
C'est ce qui m'indique à moi comme lecteur, je ne vois pas.
Mais moi, je trouve ça, alors juste, ne serait-ce que visuellement, parce que c'est pas de l'italique partout, elle est distribuée comme ça, c'est très intéressant. Alors, je trouve que
ce sont les mots qui sont un peu shootés, quoi.
Il y a aussi des majuscules.
Non, pas que, parce que sinon, j'aurais bien vu que ça envoyait un registre de toxicologie, mais non, c'est un peu à tout propos, et je sais pas pourquoi.
Non, pas du tout. Non, je crois pas que ça soit du tout.
Passons pas toute l'émission sur les italiques.
Mais en revanche, c'est pas purement signifiant, c'est aussi visuel, il y a un truc qui fait que ça dessine autrement la page. Moi, je trouve ça, mais alors,
en tout cas, c'est pas un procédé.
Bon, parlons
du livre. Non, pas du tout. Et,
Arnaud.
C'est d'abord, une chose, c'est que on dit c'est un livre sur la drogue. Oui, évidemment, mais c'est aussi un livre sur, comment dire, c'est une autobiographie.
Absolument.
Il parle beaucoup de ses parents, il parle beaucoup de
son enfance,
de l'Angleterre. Pour moi, je trouve qu'il y avait quelque chose de difficile, parce que la chose est éloignée d'un point de vue temporel. Ça se passe au début des années 80, les années Thatcher. Ça se passe dans une Angleterre qui nous paraît à peu près aussi lointaine que les îles Galapagos, dans la manière dont il en parle, hein, je trouve. C'est vraiment autre part, c'est un autre lieu. Donc on n'a pas de référent. Hein. Et quant à la drogue, moi, je suis pas Frédéric, donc je n'ai pas tous les référents non plus. Et pourtant, oui, bon, ça, un peu, mais pas tant que ça. Mais, et pourtant, je veux dire, on est juste passionné, parce qu'il y a quelque chose là de extrêmement sentimental, finalement, hein, et une manière d'écrire. Et tu parlais du maniement de la métaphore, mais parfois, c'est vraiment bouleversant. Je veux dire, c'est vraiment, il écrit vraiment bien, Chameau, quoi. À un moment, il parle du cœur en fromage de la bourgeoisie britannique. Bah, ce cœur en fromage, je veux dire, c'est pareil, quoi. On se dit, bon, il faut le trouver, quoi. Et du coup, on est passionné. Alors qu'encore une fois, c'est très très loin de nous.
Will, c'est signé Will Self, et c'est aux éditions de l'Olivier.
Aussi,
pardon.
En anglais, Will qui veut dire testament, c'est aussi. Voilà. Et la traduction est magnifique. Hein.
Qui est, je le rappelle, de Francis Carline. Florida, le troisième roman chez Finitude d'Olivier Bourdeau. Je rappelle qu'il avait rencontré un succès totalement fou avec son premier, En attendant Bone Jungles, et qu'il nous avait aussi passablement dérouté avec son deuxième, qui s'appelait Pactum Salis. Et voici donc Florida, entièrement écrit à la première personne du féminin. Olivier Bourdeau se glisse en effet dans la peau d'une petite américaine, en tout cas au début, hein, du livre de 7 ans, Elisabeth Verne, dont la mère décide de faire à Miami une mini-miss. Elle lui impose des régimes minceurs. J'ai appris dans ce livre qu'il y a des mères qui inoculent des œufs de ténia, de vers solitaires à leurs petites pour les faire maigrir. Bref, elle l'arrose d'auto-bronzant. Elle l'affuble de fossiles, elle la coiffe comme une poupée et elle la traîne de concours en concours jusqu'au jour où, on la comprend, la petite se révolte, et méchamment d'ailleurs. Et dans la seconde partie du roman, Elisabeth va transformer son corps qu'elle déteste et, sous l'influence d'un photographe gay, adepte de la musculation, devenir une femme bodybuildée qui se fait des piqûres d'anabolisants. Elle est donc passée de mini-miss à mini-monstre. On ne raconte pas la fin, Jean-Claude.
C'est un livre qui aurait pu être utile. C'est-à-dire que c'est intéressant qu'un romancier français, dans un pays où on célèbre les Miss France, dans un contexte aujourd'hui où j'en reviens pas que l'obscénité et l'indécence de cette cérémonie puissent persister.
Mais
quoi.
Est-ce qu'on fait les mini-miss comme aux États-Unis?
Alors justement, non, mais justement, dans ce pays-là, où le concours de Miss France est un truc... Moi, ça m'étonne qu'il n'y ait pas plus de protestations contre ce truc-là. Je ne comprends pas. Donc,
les Miss France, donc, l'intérêt, elles n'ont pas 7 ans. Hein.
Donc l'intérêt, c'est d'avoir un romancier qui va chercher à la fois l'origine et l'apothéose de ce système, c'est-à-dire le concours des gamines, quoi. Avec toutes ces motivations troubles, quoi, de parents qui manipulent leurs enfants pour satisfaire des vieilles frustrations, pour combler des envies qu'ils ont d'être...
Ah oui, ça, les portraits des parents dans le livre.
Oui, c'est par procuration. Et je dois dire que la première partie du livre où on est plongé dans ces concours, et à l'intérieur de la famille est terrifiant, et on y est vraiment, quoi. Et là-dessus, Olivier Bordeaux, c'est vraiment l'entomologiste de ces comportements plus que troubles, des attentes d'un monde qui est un peu fermé, avec que des maniaques. C'est en plus, non seulement c'est des névrosés et tout ça, mais c'est des gros, gros, gros maniaques, quand même. Et donc, les gamins sont sacrifiés, et ça ne gêne pas les parents.
Surtout, hein.
Et ça ne gêne pas les parents de sacrifier leurs enfants au profit d'on ne sait quoi. Et c'est toujours. Donc c'est vraiment un trait de l'époque, ça. Et toujours ce même système, humiliation, élimination. On est là-dedans, on apprend à n'être que dans la posture et à vouloir écraser les autres. Donc ça, c'est étonnant comme ça commence à converger chez les romanciers. Et ensuite, c'est la deuxième partie, donc Miami, quand elle se transforme. Et là, c'est à partir de ce moment-là où je trouve que Olivier Bourdeau se perd un peu, c'est-à-dire que ça commence à devenir un peu trop appuyé, c'est moins réussi. Je trouve que tout le long du texte, il y a des faiblesses et des facilités qu'il aurait pu s'éviter. Il y a quelques outrances, il y a des scènes qui sont pas du meilleur effet, il y a des trucs très étranges. Enfin, le distributeur de sucreries...
Copain,
elle dit son mec, elle dit c'est mon mec.
C'est
enfin bon, il y a des tas de trucs comme ça, des passages un tout petit peu gênants.
Grave, ça, hein.
Je trouve qu'à force de facilité et de relâchement en cours de texte, il perd un peu son lecteur et il se gâche un peu et ça m'a laissé un peu perplexe alors que j'avais vraiment envie d'aimer ce livre.
Patricia ?
Moi, il ne m'a pas perdu du tout. Je trouve que d'abord, il parle très très bien de l'enfance. Tu parlais d'En attendant Bojangles tout à l'heure.
Qui était un joli, bref roman. C'est le deuxième qui nous avait vraiment déçus.
Voilà, hein. Mais sur ce premier roman qui était donc l'histoire de son enfance
avec
finalement.
Une mère
folle. Qui d'ailleurs est sortie avec une mère complètement folle, qui d'ailleurs vient de sortir en version illustrée chez, je crois que c'est chez Finitude.
Et qui va être au cinéma avec Romain Duris dans quelques semaines ou mois, j'espère.
Voilà. C'est d'un réalisme extravagant. Tu peux te dire que c'est exagéré. Eh bien, moi, je pense que non. Et c'est un regard aussi sur la parentalité. Alors, ça prend une certaine forme parce que c'est dans un monde moderne. Mais je pense que ça prenait d'autres formes autrefois.
Il y a méprise. Il y a méprise.
Non,
je dis pas que c'est exagéré. Je dis qu'il y a deux ou trois scènes.
Il y a un égotisme de la part de cette femme. C'est une faune. De toute façon, les jurés, ils sont tout aussi tarés.
Le père est tellement en lâche qu'elle l'appelle le valet.
Le valet. Mais moi, je vous assure que j'ai assisté une fois à un casting de pub pour des enfants, mais les parents sont tarés parce qu'ils veulent voir évidemment leur enfant réussir. Et tout ce que tu disais de ce qu'elle subit sur son corps, etc., c'est, pour moi, c'est de la maltraitance, mais c'est un viol, quoi. Et la façon, je trouve qu'il parle aussi très bien de la façon dont elle prend conscience de tout ça. Elle ne sait pas trop au départ. S'il faut suivre cette mère, même si elle est folle ou quoi, et puis peu à peu, comment aussi le labyrinthe de la haine et de la vengeance peut aussi enfermer et devenir une prison. Je trouve que c'est quand même très bien vu.
Frédéric ?
Alors moi, j'ai pas du tout marché parce que j'avais l'impression de l'avoir déjà lu très très souvent. D'abord, il y a un film génial sur les concours de Miss d'enfants, qui est Little Miss Sunshine, dont il faut rappeler les réalisateurs, Jonathan Dayton et Valérie Faris. C'était en 2006.
Et il y a aussi un film formidable qui s'appelle Pearl sur une femme qui fait des concours de culturisme.
Voilà. J'ai eu l'impression qu'il avait quand même été s'inspiré de ces films géniaux. Ensuite, le côté démago de tout et l'écriture pataude, lourde, entre le sirop par moment et l'envie de choquer un peu artificielle. Moi, il y a des phrases qui sont dégoûtantes, en fait. Par exemple, voilà comment il explique ce que c'est que l'adolescence. Des seins et des poils, voilà ce qui tombe sur le corps d'une adolescente. Du sang, voilà ce qui tombe du corps d'une adolescente. Okay. C'est souvent, en fait, grossier, ce livre. Et puis le thème, le thème est important, parce que c'est le thème de beaucoup de livres en ce moment, c'est vrai, les filles qui veulent régler leur compte à leur maman.
Et surtout les mères qui projettent
un désir sur les enfants.
Ouais.
Et ça, c'est vrai que c'est un bon thème, mais pour moi, c'est un livre qui n'a aucun intérêt.
Arnaud.
Mais c'est un étrange écrivain, de plus en plus, parce que, bon, moi, j'avais pas du tout marché avec En attendant Bojangles. La critique était divisée, comme on dit, et à ce moment-là, déjà.
Au masque, elle était divisée, je
très divisée,
je
oui. Bon, le livre a eu un énorme succès, il va être adapté, etc. Le second, c'était une catastrophe, on peut dire que ça n'avait strictement aucun intérêt, c'était lourdingue, enfin. Et là, en fait, c'est encore un autre écrivain, c'est-à-dire qu'il n'écrit ni comme le premier, ni comme le second, fort heureusement pour le second. Il écrit encore autrement, donc on se demande un petit peu qu'est-ce qu'il fabrique, quel est le sens de ce...
Quelle est la nécessité, surtout
de sa production, là. Et moi, j'ai préféré la deuxième partie à la première, parce qu'au moins il y a des personnages, il y a une espèce d'énergie un peu dingue, comme ça.
Ah oui, parfois, le photographe musculeux est assez, oui, assez intéressant, je
le
trouve.
Le galeriste est vraiment galeriste, un personnage oui. marrant. Enfin voilà, il y a une cocasserie, une énergie aussi dans, dans la phrase et tout ça qui fait que, bon, ok, ça marche. Enfin, il n'y a pas de quoi non plus.
Florida, c'est Olivier Bourdeau et c'est aux excellentes éditions de Bordeaux. Finitude. Allez, on termine rapidement avec Une saison douce, le nouveau livre chez Liana Lévy de la romancière sarde Milena Agus, à qui on doit notamment Mal de pierre, qui avait été adapté au cinéma, très bien d'ailleurs en 2016, par Nicole Garcia. On est une fois encore en Sardaigne, dans un petit village oublié de tous, où même le train ne s'arrête plus et que les jeunes générations ont déserté. Et voici que débarque un groupe de migrants, accompagné de quelques humanitaires. Dans un premier temps, la population locale les voit comme des envahisseurs. Et puis des femmes sardes, donc, dont la narratrice, décident de leur apporter de l'aide et de leur demander aussi la leur, en échange, pour faire renaître le potager du village. En fait, au départ, il y a les préjugés des deux côtés, hein. Il y a les villageois qui n'aiment pas être dérangés dans leur routine, et puis les migrants qui ne trouvent pas vraiment le pays de Cocagne dont ils rêvaient. Arnaud?
Ça m'a rappelé, bien qu'il fût totalement raté, un roman de Philippe Claudel, qui s'appelait L'Archipel du Chien, qui était paru il y a...
Qui était plus fou, hein.
Oui, plus fou, 2 ou 3 ans.
C'était à la frontière mais du fantastique.
Il y avait la même idée qu'ici, mais celui-ci est plus réussi, hein, très clairement. Mais il y a la même idée, c'est-à-dire de parler des migrants sans tomber dans la géniardise, l'indignation ou la révolte qui sont, en général, la manière dont on parle du sujet des migrants. Là, il y a quelque chose qui est beaucoup plus léger, presque cocasse. Il y a l'utilisation du « nous », hein, parce que tout est écrit à la deuxième personne du pluriel. C'est une... On ne sait pas exactement d'ailleurs qui parle.
Si, c'est les femmes, c'est les femmes du village.
Oui, mais pas toutes, parce qu'il y a les autres aussi dans le village. Donc, c'est certaines femmes du village qui acceptent finalement de se lier avec cette communauté qui n'est pas simplement, c'est là où c'est l'habileté, à mon avis, du livre, pas simplement celle des migrants, mais aussi des humanitaires. C'est-à-dire de la communauté que forment les humanitaires et les migrants dans ce petit village sarde, avec des personnages, là, le professeur, son élève qui est amoureuse folle de lui, un gérant de sex shop qui travaille dans l'humanitaire. Voilà, il y a quelque chose là comme ça qui est parfois émouvant, mais alors ça part un peu dans tous les sens, faut bien le dire, hein. C'est un petit peu rhapsodique, et on s'y perd parfois un petit peu, mais enfin, il y a quand même, de toute évidence, un écrivain.
Sur
là.
Un thème qui est, je le rappelle, quand même le thème principal de la littérature italienne contemporaine et du cinéma, puisqu'on le revoit dans plusieurs films. Frédéric.
Je trouve que c'est une façon d'enjoliver un problème très grave et très violent. On a l'impression que c'est les migrants vus par Marcel Pagnol, quoi. Tout d'un coup, tout est mignon.
Oh non.
Jésus et Allah se complètent merveilleusement. Les Africains chantent et repeuplent la Sardaigne. Je sais pas, qu'est-ce que c'est que c'est un conte de fées, quoi, à côté de la réalité.
Finalement, les livres où il y a pas de drogue, t'es pas content.
Ça m'ennuie profondément. Oui, ça, bien sûr. Hein. Oui. Non, je trouve qu'il a une qualité, ce livre, c'est le plus court du programme d'aujourd'hui. C'est ce qui m'a plu. Non, le roman de migrants, ça commence à devenir un genre en soi. Il y a eu Kerangal, Dario Sec, Laurent Baudet.
Celui-là est différent.
Léonora Miano. Enfin, il y en a 10 par mois, quoi. Donc là, moi, je pas celui-là, merci.
Jean-Claude?
Ce qui est intéressant, c'est la façon dont elle a posé son cadre. C'est-à-dire, c'est intéressant que ce soit dans un bled perdu, oublié, qui se meurt, qu'arrivent ces migrants. Et qui sont déçus de tomber dans un endroit où c'est paumé, ils rêvent d'aller ailleurs. Mais au lieu de trouver un havre en se disant bon, ben voilà.
Ils espéraient Disneyland.
Oui, mais ce qui est formidable, c'est cette déception. Moi, je trouve ça vraiment bien. Mais donc, c'est un roman sur l'étranger. Non, mais tu as raison. C'est un peu le thème aussi, encore un thème fort du moment, quoi. Ouais. Et c'est à la façon ou pas d'accueillir les gens qui arrivent d'ailleurs, entre le rejet, la curiosité, la confiance, la méfiance. Comment s'en approcher, comment les regarder, comment leur faire une place. Je trouve que là-dessus, c'est très très bien. Sur l'apprentissage réciproque, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en effet, la narration est faite par une sorte de cœur de femme, en réalité, d'épouse, et qui appelle les autres. Mais les autres, c'est pas les migrants. Les autres, c'est les maris, c'est les belles-mères. C'est-à-dire, c'est les autres tout proches.
Et ceux qui, dans le village, refusent d'accueillir
les migrants. Voilà, c'est ça. Alors ça, je trouve que c'est une astuce intéressante.
Et surtout les enfants qui sont partis, parce que c'est ça le problème.
Oui, aussi, il y a plus rien. Mais d'appeler les autres, ceux qui sont les plus proches, je trouve ça tout à fait intéressant. Bon, on voit aussi que les femmes ont une sorte de monopole de la compassion. Alors on peut en discuter, c'est sans doute vrai. Mais en tout cas, elle insiste beaucoup là-dessus. Que cette idée de projet par les migrants est intéressant parce que ça fait renaître le village et ce mot de projet ne peut être associé qu'avec eux. Et cette idée de projet avec les migrants, toute la question est de savoir si c'est un feu de paille ou si ça va être durable. Je dis rien là-dessus. Alors on peut dire que c'est une littérature de bon sentiment,
mais
on peut tout à fait le
est-ce
dire.
Est-ce que tu aimes ou pas?
Oui, on peut dire que c'est une littérature
c'est
de bon
ça,
sentiment.
C'est pire que ça, si on simplifie la réalité.
Mais c'est une
la
fable.
La réalité est beaucoup plus violente que ça. Mais c'est des camps de migrants avec des gens qui s'en foutent.
Je te rejoins. Je trouve.
C'est pas des gens qui font des potagers avec eux, hein.
Je te rejoins. Je trouve qu'au bout du compte, c'est une fable un peu mièvre, écrite avec de la tisane. C'est gentillet, c'est doucereux, c'est un peu fade, mais en même temps, c'est pimenté de lucidité,
si
de fantaisie
vous, si vous
et d'acidité.
Si vous voulez du corset, relisez Mal de Pierre, qui est un très très grand roman selon moi. Patricia.
Moi, j'aime pas particulièrement la tisane et j'aime beaucoup Milena Agus parce que je trouve qu'il y a une atmosphère dans ses textes. Je trouve qu'elle a une voix. Je trouve qu'il y a toujours un mélange d'acidité et de tendresse, d'aridité et de générosité. Et on est dans un endroit qui devrait être beau. Cette île, on est dans un petit village, on voit même pas la mer. Très honnêtement, les plantations
d'artichauts... Dans le sud-ouest de la Sardaigne,
les plantations d'artichauts, il y a plus sexy. Je veux dire que les agrumes, par exemple, c'est plus joli. Regarde un champ d'artichauts.
C'est beau.
Non, mais c'est très très bon à manger. C'est absolument délicieux, surtout que les Italiens les cuisinent très très bien. Mais bon, c'est pas très sexy. Donc ces gens arrivent là après avoir eu... Parce que ça aussi, c'est dit dans la deuxième partie du livre. Il y a eu toutes les horreurs de la traversée. Il y a eu l'abandon d'un pays. Il y a eu des morts, etc. Enfin, c'est lourd. Et ils arrivent là, et quand je dis qu'ils rêvent d'Europe, c'est parce que pour eux, ça, c'est pas l'Europe, quoi, effectivement. Ils veulent du clinquant, etc. Et ils auraient pu avoir tous ensemble la possibilité de faire renaître ce village. Et en fait,
on ne sait pas.
On ne sait pas. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, Milena Agus. Ça a toujours l'air comme ça, même. À la limite très simple, même un peu simplet, et il y a quelque chose de l'épure et de cette espèce de chrétienté italienne que je retrouve.
Chrétienté.
Oui, bah oui, c'est oui, assez c'est chrétien bien, comme, oui, c'est comme
la charité.
Mais ça te frappe
dans ces livres, c'est toujours comme ça. Oui, enfin quand tu connais un petit peu l'Italie, tu retrouves des choses de ça, oui.
Puis y a pas
les mamas italiennes.
Il n'y a pas tant de romancières sardes que ça. Là, c'est donc une saison douce. C'est donc de Milena Agus et c'est chez Liana Levy. On a tout à fait le temps de vous proposer maintenant des livres, format de poche, grand format, des menus, des restaurants, des disques, des DVD, ce que vous voulez. On va commencer avec Patricia.
Alors moi, c'est un pavé que je vais vous proposer.
Un
vous
pavé.
Prendre le... Oui, il fait 600 pages.
Bien cuit.
Il s'appelle, le titre, c'est Pachinko. Pachinko, en Asie, c'est entre le flipper et la machine à sous.
Roland Barthes a écrit des beaux textes sur le pachinko.
Voilà. Et c'est écrit par une jeune femme qui est née à Séoul, qui s'appelle Min Jing Lee. Et puis qui a immigré aux États-Unis avec ses parents quand elle avait 7 ans. Elle a écrit Pachinko à Tokyo. Et c'est évidemment, là je ne vais pas vous faire un dessin, la Corée contre le Japon. Une autre forme de guerre qui se passe au quotidien, c'est-à-dire avec d'autres armes évidemment dans la vie quotidienne. Une discrimination mais absolument horrible pour les Coréens à qui personne ne donne de place, ceux qui vivent au Japon. Et c'est sur 4 générations et il y a beaucoup de femmes qui sont vaillantes, qui sont courageuses, qui sont pleines de bravoure, parce qu'il en faut pour vivre cette vie-là et exister quand vous n'avez de place nulle part. J'ai trouvé que c'était un livre absolument... Mais pour moi, c'est un grand, grand livre. Et je crois qu'ils se sont servis d'une phrase de Barack Obama qui en dit le plus grand bien.
Combien de pages tu dis ?
600 à peu près.
600 pages.
Comme ça. Et c'est aux éditions Charleston. Et c'est traduit par Laura Bourgeois.
Pachinko et le nom de l'autre...
Min Jing Lee.
Le conseil de Jean-Claude.
En 2019, Jean-Marie Lachaftine avait publié un récit qui s'appelait « Une amie de la famille » et qui était le récit de la mort accidentelle de sa sœur qui avait 20 ans en 1968 et qui avait été emportée par une vague à Biarritz. Et comment, à la suite de ce traumatisme, la famille avait recouvert cette histoire et c'était devenu un trou noir jusque dans la mémoire de Lachaftine. Lachaftine donc raconte cette histoire 50 ans après, et puis les dégâts que ça avait provoqués. Et à la suite de la publication de ce livre, il a été submergé, c'est le cas de le dire, de lettres et de courriels d'inconnus de lui, soit qui avait bien connu sa sœur, soit qui venait lui expliquer le rapport qu'ils entretiennent avec leur propre mort. Et donc, il prolonge Une amie de la famille par ce nouveau livre, qui est tout à fait passionnant, sur le pouvoir de la littérature, qui montre-t-il, démontre-t-il, explique-t-il, maintient et entretient le lien que les vivants maintiennent avec leur mort. Il montre comment on maintient un dialogue secret avec les morts. Ils parlent des signes de leur présence. Ils parlent de ce besoin permanent qu'on a de se retourner vers nos morts pour chercher un étrange réconfort. Il dit aussi que quand les morts partent, c'est comme s'ils emportaient une part de nous-mêmes qui va nous rester obscure, mais qu'eux vont protéger. Et ce qu'il dit, c'est que les morts et les livres sont des agents de liaison. Il a une jolie formule, il dit « Les morts ont la vie dure », et en tout cas, ce livre est conforme à son titre. Son titre, c'est « La vie des morts », donc Jean-Marie Laclaftine, chez Gallimard.
Il dit aussi cette chose terrible, c'est qu'il dit à sa sœur « Tu as eu la chance de ne pas vivre vieille, comme ça tu n'as pas eu à subir les morts ». Enfin, c'est
mon conseil, c'est un inédit posthume qui s'appelle « La clarté Notre-Dame », c'est chez Gallimard, du très très grand poète Philippe Jacotet, peut-être un de mes préférés dans la poésie contemporaine, qui est mort à Grignan le 24 février dernier, et juste quelques jours après paraissait ce bref et ultime carnet de notes, où il chante les louanges d'Hölderlin, les chants d'Amandier, près de Grignan, où il habitait, et puis de cette cloche des vêpres du monastère de la Clarté Notre-Dame, dont il écrit qu'elle lui a montré le chemin du ciel. Tout Jacotet se trouve d'ailleurs, sauf ses textes posthumes, mais inédit, en Pléiade. Il y a un volume de la Pléiade. Ne vous en privez pas, lisez, relisez ce très grand poète qui vient de disparaître, Philippe Jacotet. Le conseil de Frédéric.
Le Masque et la Plume est une terre de contraste. Moi, je conseille donc, dans la série Mémoires déjantées d'anglo-saxon trash, Monsieur Je sais tout, Conseils impurs d'un vieux dégueulasse, de John Waters, le réalisateur de Pink Flamingos, de Polyester, qui a 74 ans. Et la première phrase, c'est « Bizarrement, je suis devenu quelqu'un de respectable ». En fait, pas du tout. C'est extrêmement comique, délirant du début à la fin. C'est vraiment un cinéaste culte. Il est tellement culte qu'il fait des tournées de conférences en Amérique, partout, et où c'est plein à craquer. Les gens payent l'entrée et tout, c'est admirable. Je rappelle que c'était le premier à filmer des drag queens obèses mangeant des crottes de chien en odorama. Et puis,
odorama super bien.
Et alors voilà. Et alors, bien sûr, il y a c'est une des raisons de mon attachement. Il y a un chapitre où il décide de prendre du LSD avec deux amis de 70 ans, comme
C'est QFD.
Pour le livre, juste pour le livre, pour qu'il y ait une scène dans le livre, et cette scène est totalement culte.
On l'inscrira au masque. Arnaud, pour finir.
Sans doute le livre le plus pop du moment, c'est On ne peut vivre qu'à Paris, d'Émile Cioran. Eh oui, il s'agit d'aphorismes inédits de Cioran en bande dessinée, ou plutôt en comic strip, c'est-à-dire, vous savez, comic strip, c'est trois cases uniquement. Et donc on voit le personnage de Cioran, qui devient une espèce de personnage de BD, qui circule dans Paris, notamment au Luxembourg, tout proche d'ici, qu'il appelait son jardin, où il croisait Samuel Beckett ou encore son compatriote Isidore Isou. Et donc à chaque fois, dans ces comic strips, il y a ces aphorismes, alors ils sont formidables. On dirait une espèce, du coup, ça donne une espèce, Cioran devient une espèce de Charlie Brown d'un pessimisme le plus noir. Par exemple, cet aphorisme, qu'est-ce qui m'empêche de me tuer en ce moment? Il est en train de passer sur le pont des Arts, rien, sinon ce rien. Voilà. C'est on ne peut vivre qu'à Paris. Je vous en donne un autre. Ah ouais. Non, qui ne meurt pas de faim est suspect. Magnifique, non?
Tous ces conseils qu'on ne peut pas imaginer.
Chez Rivage.
Qu'on ne peut pas imaginer plus variés, vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Patricia Martin, Jean-Claude Raspien-Jas, Arnaud Vivian, Frédéric Becbédé, pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lysiane Selam. Et ce soir, au Théâtre de l'Alliance Française, à La Technique, il y avait, et je les remercie, Jaizan Taous, ainsi que Philippe Thibault, pour une réalisation signée Xavier Pestugia. Dans une semaine, on parlera de cinéma. Je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.